et Annick Marceau. On refait le monde pendant 30 minutes.
Hey, ça, c'est un beau Willy, mon gars.
Voici le Pit Stop avec Gravel et Marceau.
1, 2, 1.
La classique boulevard qui va avoir lieu dans à peu près une trentaine de jours. On va avoir besoin de joueurs. Puis là, je vois que mon chum Denis commence à reprendre du poil de la bête après avoir eu le scorbut pendant quoi? Deux semaines? Trois semaines à peu près?
Ça, puis la l'herpès grimpante.
On pensait qu'on allait le perdre. Puis là, finalement, il commence à être de plus en plus en forme. Fait qu'il va être prêt pour embarquer sa glace avec nous autres, avec la classique boulevard. Puis on prend cette année un club qui était moins fort que les boutons en feu. Là. Parce que l'année passée, on s'est fait...
Vous baissez.
On n'a pas le choix.
Il me semble que c'est un peu loser.
Ben, l'idée, c'est de bien paraître.
Moi, je pense qu'on baisse le niveau cette année. On perd encore. Puis l'année prochaine, on fait ça familial avec les enfants. Tout,
vous vous battez contre les enfants sur la glace.
Oui, oui. On va battre une équipe de Pee-Wee. On va essayer, en tout cas.
Mais là, dites-moi que c'est pas vrai, ça, ce choix-là. De prendre une équipe moins forte.
Ben là, on n'a pas le choix parce que c'est un tirage en bout de ligne.
OK.
Mais on aimerait ça que ce soit une équipe moins forte que les boutons en feu pour que notre ego soit un peu gonflé après le match.
Tu sais, ça va être la troisième Winter Classic de Boulevard. Puis moi, la première, je me disais, je vais regarder le calibre, puis après ça, je vais décider si je joue ou pas.
Ouais, t'as été poule mouillée.
Ah, j'ai rapidement décidé que je jouerais jamais. Donc, je vais être annonceur. Je vais être annonceur maison si on veut bien de moi, puis si je retrouve ma voix.
Oui, mais malgré que t'as vu jouer Max, t'as vu jouer Jeff Fortin, tu pourrais être sur la glace. Là.
Je le sais pas. Je pense pas.
Denis, tu pourrais aller plus vite avec une marchette. Là.
Ouais. Je veux pas m'embarquer là-dedans. Mais c'est plus les blessures qui me font peur. Parce que je suis pas entraîné, je suis pas en forme.
Ouais.
Je suis pas rien. Tu te twists une cheville, t'es six mois. J'ai
mais
plus,
là, Denis, t'exagères.
Non.
C'est toujours bien juste une partie de hockey.
Je suis fait en carton. Là. Si des gars comme Kachuk et McAvoy sont pas capables de jouer la finale du tournoi des Quatre Nations... Je suis pas capable de survivre à la classique de Boulevard. Absolument pas.
Toi, ton défi, ça va pas être... Enfin, ton défi, Yannick, sera tout différent. Ça ne sera de ne pas utiliser tes points.
J'ai un très bon comportement dans les classiques Boulevard, soit dit en passant.
Il est impeccable.
Il dit dans les classiques Boulevard.
Exact.
Oui.
J'ai un très bon comportement.
Puis je suis d'accord avec dans les classiques Boulevard. Ouais.
Mais... Mais tu vois, jeudi soir, même si vous êtes contre la violence au hockey, d'après moi, il n'y a aucun de vous deux qui va rater le match jeudi. Là.
J'ai pas l'impression qu'il va y avoir de la bagarre, par exemple. J'ai l'impression que ça va s'enligner bien autrement. J'ai l'impression que ça va starter prudent. Puis est-ce que les États-Unis bluffent ou il y a... Parce que là, les Bruins viennent de confirmer que Charlie McAvoy s'est terminé pour le tournoi des Quatre Nations.
C'est une lourde perte pour les États-Unis.
Énorme. Il a fait la différence. Je sais qu'il y a eu de l'air d'un raisin sur le but du Canada, mais après ça, il a empêché Connor McDavid de faire quoi que ce soit dans ce match-là.
C'est lui qui a fait élever Connor McDavid dans les airs.
Oui, il est allé l'asseoir dans les loges en haut. Là.
les Kachuk sont blessés?
Kachuk est blessé aussi. S'est blessé hier dans un match sans importance. Il a probablement aggravé une blessure qu'il avait déjà, parce qu'on avait vu là, que pendant le match contre le Canada, à un moment donné, il est allé s'asseoir sur le bout du banc et il a dit « Coach, moi je peux plus. » Donc, il y a quelque chose qui se passe là aussi. Et là, on est en train d'assister Marceau, puis ça me fait vraiment de la peine. Là. C'est la raison pourquoi c'est un concept qui ne tiendra pas très longtemps. Parce que là, les équipes vont chialer.
Ben, les directeurs généraux, je veux dire, quand ils regardaient la game entre les États-Unis et le Canada, ils devaient halluciner. Là. C'est les meilleurs joueurs de la Ligue nationale qui sont en train de se taper dessus.
Oui, parce que là, mettons que les Bruins viennent de perdre McAvoy jusqu'à la fin de la saison.
Ouais.
Mettons que Kachuk perd 2-3 semaines. T'sais, ça, c'est les premières histoires. Il y en aura peut-être d'autres, probablement, parce que le hockey est tellement intense qu'il y aura d'autres blessures, il y aura d'autres blessés. Puis les équipes vont être les premières à chialer et à dire « Ben là, nous autres, on perd des joueurs dans un tournoi qui, pour nous autres, a aucune signification puis aucune implication, ça va être les premiers à faire en sorte que ce beau rêve-là durera pas très longtemps, malheureusement.
Tu sais, les Oilers qui voient Connor McDavid se faire visser des bandes.
Ben là, il y a le DG des Oilers, il a manqué mourir du cœur une couple de fois samedi soir, là. Plus que nous autres, plus que toi puis moi.
Mais jeudi, je pense qu'on va tous regarder le match.
Ah oui, ça va naître toute une. Crinqué à l'os, moi.
Hey, mais vous m'avez crinqué, puis je trouve ça le fun parce que je pense que bien du monde comme moi qui n'ont aucun intérêt, aucune connaissance dans le hockey sont rendus dans Reg, même chose cette semaine, parce que vous tripez tellement que vous nous donnez ce trip-là.
Mais le sport, ça rallie les gens. T'sais, quand on regarde les Olympiques, là, on est tous Team Canada.
C'est un
sentiment
olympique.
Moi, le saut à la perche, là. Rendu fan.
Je me souviens de...
Ça prend rien qu'une possibilité de médaille ou un gars que son pénis dépasse de ses shorts puis soudainement, tout le monde tripe sur le saut à pêche.
La France m'a impressionné à plusieurs niveaux aux derniers Olympiques. Mais arrêtez de partir des rumeurs sur quoi.
La France, au saut à la perche, a une très bonne longueur d'avance.
Mais je me souviens encore du Golden Goal comme si c'était hier. Là, j'étais à la cage au sport sur Laurier de Nice. C'était l'après-midi de mémoire. Mm. Et la cage au sport était bien pleine. Puis quand Sidney Crosby a scoré le Golden Goal, on devenait tous des frères et sœurs dans la place, puis on serrait tous dans nos bras.
C'est pas un... Sérieux. C'est pas un feeling qu'on vit souvent dans une vie.
Toi, t'aurais paniqué ou perdu connaissance parce qu'il y a des gens qui voulaient te prendre dans leurs bras. Là.
Je l'ai fait une fois dans ma vie, tu sais.
Il s'en rappelle.
Le septième match entre les Bruins et les Leafs de Toronto au Garden.
Ouais.
Quand les Bruins perdaient 4-1 puis qu'il restait 10 minutes et que les Bruins ont remonté puis qu'on est allé en prolongation. Le nombre de gros dudes que j'ai pris dans mes bras que je ne connaissais pas, parce qu'entre la troisième puis la prolongation, ils ont juste joué Don't Stop Believing de Journey en boucle. Puis tout le monde chantait ça d'un corridor en allant se rechercher de la bière.
Ouais.
Puis dès que tu voyais qu'il y avait un chandail des Bruins, tu le prenais dans tes bras. We're gonna do this, man!
Mais t'étais complètement éclaté d'alcool.
Ouais. Non, c'est vraiment c'est l'effervescence de vivre un moment.
Ah ouais. Le sport, ça rallie.
Ouais.
C'est ce que ça fait. Puis jeudi, on va tout être le Canada, puis on va regarder ça en souhaitant qu'on massacre les États-Unis d'Amérique.
À tout le moins que pour la génération de nos enfants, ils vivent leur golden goal à eux autres. Tu sais, le moment... qu'on va revoir jusqu'à la fin des temps, dans la grande histoire du hockey. Là.
Make Canada great again!
Ah ouais, donc!
Tu es d'accord avec ça, c'est vrai?
Oh oui!
Bon, pour une fois.
Je pourrais porter cette casquette-là.
Dans les dossiers un peu plus locaux, les amis, les cols bleus de la Ville de Québec vont déclencher une grève générale illimitée de nuit. Ça va être à partir de jeudi. Donc, tous ceux qui ont des vidanges au chemin, et je fais partie de ceux-là, sachez qu'il y a des possibilités qu'on les ramasse un mois plus tard.
Wow.
Donc, on va ramasser jusqu'à jeudi toutes les poubelles de la Ville de Québec. Et
ça fait long quand tu as sorti les affaires de ton ex.
Après ça...
C'est pas la bonne semaine. C'est vraiment pas la bonne semaine.
Et après ça, ça pourrait aller dans un mois, ce qui serait assez hallucinant. Donc, il y a des moyens de pression qui vont être mis en place. On apprend dans un document qui a été partagé avec le syndicat que le déneigement va être affecté. Donc, en deçà de 9 cm de neige, les services vont être réduits. Et ce ne sont pas toutes les artères ni les trottoirs qui seront déneigés. Moi, sérieux, là, c'est à partir de jeudi, vous déneigez les pistes cyclables, mais vous déneigez pas les trottoirs pour les personnes handicapées. Vous allez m'avoir sur votre chemin en sacrament, l'école bleue. Là.
Il faut y aller par priorité prioritaire.
C'est
là,
ça, occupez-vous des handicapés. Là. Moi, quand je passe à côté de... c'était François Charon, là, maintenant, c'est rendu l'Institut de réadaptation physique de Québec en face de Place Lourdes-Lys. Moi, quand je vois que ce secteur-là n'est pas déneigé, alors que les gens se rendent là en chaise roulante, là, ça me met dans tous mes états.
Il a dit qu'il se battait juste pas quand c'était une game de boulevard.
C'est ça.
Oui, c'est ça. Mais
le reste, c'est pas pour nous autres.
Pour les trottoirs, seuls ceux de niveau 1 vont être déneigés, ce qui inclut ceux des artères scolaires et commerciales. La collecte des ordures va être organisée uniquement une fois par mois, à l'exception du chargement frontal. Fait que chargement frontal, c'est le camion qui prend la poubelle de ton immeuble,
oui.
Qui lève par en avant.
Mm-hmm.
Fait que ça va être correct.
OK.
Mais chez toi, Denis, si c'est le petit camion qui prend le bac et qui l'envoie sur le côté.
Sur le côté, là.
Ça, c'est un mois.
Ah, ça passe plus, ça. OK. Ça commence quand?
Ben, ça serait jeudi.
OK.
Mais tu sais quoi, mon premier réflexe?
Les poubelles passent demain. Fait que demain, il ne faut pas que je manque l'autobus.
Demain, t'es correct.
Ouais.
Mais c'est ça à quoi j'ai pensé un matin quand j'ai lu ça? Parce que j'avais l'information hier, là, des cols bleus qui m'avaient écrit comme quoi il y avait de fortes possibilités que les ordures soient touchées. Je me suis dit, je devrais pas parler de ça à la radio, mais. On va tout être chez Canac pour aller chercher un 2-3 bac. Là.
Ça se peut.
C'est 90$ du bac.
90$ du bac.
Fait que salutations aux gens de Canac qui vont faire des affaires d'or dans les prochaines minutes. Là.
Mieux l'hiver que l'été pour ce genre de moyen de pression-là, je pense. On est-tu tous d'accord là-dessus?
Absolument.
C'est pas l'idéal, là.
Mais on l'a déjà vécu auparavant, le Vidange Gate, là.
Ouais.
Ça, les rats sortaient de partout. Ça sentait le toxique à grandeur de la ville.
L'été, ça serait vraiment le bordel, puis ça serait vraiment désagréable. Là, tant qu'à avoir des moyens de pression comme ceux-là, j'aime mieux que ce soit fait là.
Et 100% des services qui sont arrêtés pour Expo Québec, et je vous rappelle qu'actuellement, c'est le tournoi international de hockey Pee-wee qui est là. Puis il y a le salon Expo Habitat aussi en fin de semaine, donc ça va être un petit bordel.
J'ai hâte de voir, parce qu'on a parlé avec Patrick Dom la semaine passée qui disait que lui, il avait eu des garanties qu'on toucherait pas au Pee-wee pendant les moyens de pression. Puis il avait l'air d'avoir beaucoup d'assurance et de confiance dans cette certitude-là. J'espère qu'on va garder cette discipline-là. T'as Expo Habitat, puis t'as le tournoi, puis oui, en même temps, c'est tout un bordel de gestion dans ce coin-là. Peut-être attendre la semaine d'après.
Puis, il y a un auditeur qui me fait penser, parce qu'il y a certains endroits, là, c'est des entreprises privées qui ramassent les poubelles. Donc, dans ton secteur, ce serait Matrec, là. Fait que ce serait à voir s'il y a un impact dans ton secteur.
On va l'apprendre au fur et à mesure. Là,
si c'est
que
la
tu vas
ville
me dire.
Qui ramasse les poubelles chez vous, ça se peut que la prochaine collecte, ce soit dans 30 jours, si c'est pas réglé avec la ville de Québec.
Chose intéressante, des gens qui parlent aussi du fait d'aller jeter ces ordures dans les poubelles commerciales de commerçants, d'entrepreneurs.
Ouais.
Sachez qu'eux, là, on leur demande de payer selon le poids de leur poubelle. Fait que si tout le monde commence à faire ça, vous ne leur rendez pas service à ces commerçants. Là.
Mais en même temps, quand ça déborde à la maison, on est plusieurs à avoir une coupe de bac alternatif.
Okay, tu plaides coupable.
Absolument. Je te juge.
Absolument.
On est deux.
Ben là.
Ben je vous juge.
Des vidanges, c'est des vidanges.
L'autre jour, là, je suis parti de chez nous, les deux bacs étaient bien pleins. Puis je sais pas si c'est juste cette année, si je suis le seul à avoir eu ce collant-là. Là, 418-971-1021 par texto. Mais moi, j'avais mon bac de poubelle. Et le bac de poubelle était ouvert d'à peu près un pouce.
Ouais.
Et j'ai eu un collant d'un sous-fifre de la ville qui est passé pour dire que si mes poubelles étaient remplies à ras-bord, faudrait que j'aie un deuxième bac.
Ben oui. C'est un peu excessif, là.
Parce que ça devait tomber quand
mon deuxième bac, c'est le bac en arrière chez Métro.
Puis mettons à aller le porter, peut-être le bac.
Ben oui. La vraie vie. La vraie
à mairie, là.
Ouais.
Non?
On pourrait
dans un endroit ou une infrastructure de la ville municipale.
En face de l'immeuble de Bruno Marchand?
Ça serait peut-être mieux dans un endroit municipal que commercial.
Il y a une catégorie d'ordures aussi qui se place entre le voyage à l'éco-centre et ça rentre pas dans mon petit bac. Moi, j'aime bien ça aller domper d'un bac, ceux-là, tu sais. Puis ça donne que dans appelons ça le secteur Le Bourgneuf, il y a des beaux grands bacs toujours vides qui sont faciles à spotter.
Toi aussi, ces bacs-là, t'es vus?
Ben, tu te parques à côté, fait que...
Vous allez traîner vos vidanges dans vos chars.
Attends un peu, toi, là.
Quoi?
Quand tu as une maison, tu vas voir que des fois, la vie, c'est pas toujours simple.
Ben, voilà. J'ai habité dans des maisons, puis la vie était, somme toute, simple quand tu réfléchis.
Ben oui, mais là, c'est ça, là, parce que là, tu vas avoir des chums riches avec des majordomes qui vont faire la sale job pour toi, là. Mais moi, je parle la vie normale, là, tu sais.
Pardon?
On n'a pas de gens avec des gants blancs qui vont porter nos poubelles au chemin.
On peut pas faire ça, nous autres.
Pardon?
On n'a pas ce luxe-là.
Hey, faites attention, parce que moi, je vous sors au bac dans pas long, là.
Est-ce que c'est des moyens de pression qui vont vraiment irriter les citoyens de la ville de Québec?
Comme je te dis, moi, c'est comme ça que je le présenterais.
Ouais.
Tu sais, de dire, on fait des moyens de pression, on les fait dans une période où il y a le moins d'irritants possible pour la population. Moi, c'est comme ça que je le présenterais. Vous voulez pas gérer ça pendant l'été, puis nous autres non plus. Je pense qu'actuellement, c'est raisonnable, à moins de me tromper. Par contre, Expo Québec, je pense que c'est une fin de semaine clé, là. Avec Expo Habitat d'un bord puis les Pee-wee de l'autre, je trouverais ça bien dommage que des moyens de pression fassent en sorte, particulièrement que l'organisation du tournoi de hockey Pee-wee est cop, de quelque façon que ce soit. Je pense que stratégiquement, ça, ce serait mal avisé. Mais de présenter les moyens de pression, sont capables des fois, de présenter les moyens de pression puis dire « nous autres, on veut que ça implique le moins possible le citoyen, on peut pas rien faire, mais... » On niaisera pas pendant Expo Habitat puis pendant le tournoi Pee-wee. Puis là, oui, les vidanges, on slack là, mais c'est en prévision que ce soit réglé pour pas faire ce genre de choses-là en plein été quand on va avoir du 30-32 degrés à l'extérieur. Moi, je trouve ça vendable.
Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Autre dossier local. Dans le secteur de Saint-Roch, on en parle régulièrement. Là, on a perdu quelques établissements qui ont décidé de soit fermer ou soit de déménager complètement parce qu'il y avait des problématiques, que ce soit le stationnement, que ce soit les gens qui passaient du temps en dessous du carpote pour, je sais pas, pour vivre ou pour faire leurs besoins, ce qui fait en sorte que ça a découragé certains commerçants. Là, il y a une perspective qui s'en vient. Là, c'est possiblement de voir le gouvernement du Québec retirer ses fonctionnaires hors de Saint-Roch. Dans cet endroit-là, il faut savoir que le gouvernement ne détient aucun immeuble.
Non.
C'est tous des locaux qui sont loués à des entreprises privées. Et là, le gouvernement dit ben, on serait aussi bien de relocaliser nos fonctionnaires dans d'autres locaux qui nous appartiennent. Ce ne serait pas une mauvaise idée, mais ce qui serait dramatique pour Saint-Roch. Là.
Je sais pas si tu as pensé à la même affaire que moi, mais on revient toujours à ça. Hein. C'est quoi la relation actuellement entre le gouvernement du Québec et la ville de Québec? Puis si jamais on décide de retirer les fonctionnaires de Saint-Roch, il y a beaucoup de commerces qui ont désespérément besoin de cette clientèle-là. Je pense aux restos du coin, je pense aux microbrasseries du coin et ainsi de suite, qui ont déjà vu une baisse d'achalandage avec le télétravail et ainsi de suite. Des enjeux de sécurité aussi qui font en sorte que les gens quittent le bureau plus rapidement puis feront pas de 5 à 7 dans le secteur. Tu sais, il y a déjà des problématiques. Si le gouvernement fait pas sa part là-dessus, puis un gouvernement, une fois de temps en temps, il faut que ça fasse des statements, c'est carrément un désaveu de ce qui se passe avec la ville de Québec présentement, puis c'est de dire « Hey, arrangez-vous avec vos problèmes. » Et je sais qu'on a été particulièrement sévère, mais juste avec le conseiller Lachance. Mais dans ses déclarations de ce matin, il a raison. On a réussi à revitaliser ce secteur-là avec l'aide du gouvernement qui y a installé des fonctionnaires et ainsi de suite.
On a mis 500 millions avec la ville puis le privé.
Oui, mais à partir du moment où le gouvernement retire ses billes, c'est comme dire, nous autres aussi, on pense que Saint-Roch est mort, puis organisez-vous avec votre troupe. Ce serait, écoute, une gifle en pleine tronche pour Bruno Marchand. Rien de plus, rien de moins.
Oui, puis ce serait dommage pour les commerçants de la place. Oui. Mais mettons qu'on est des contribuables, puis on regarde ça à froid. Est-ce que le gouvernement, s'il sauve de l'argent, on est heureux, nous, de notre côté?
C'est comme ça qu'ils vont nous l'expliquer, c'est comme ça qu'ils vont nous le vendre, puis c'est comme ça, en tant que citoyen, qu'on va voir le côté positif de la chose.
Parce que j'ai des amis fonctionnaires qui travaillent de la maison plus souvent qu'autrement maintenant. Puis là, ben, des bureaux partagés au gouvernement, on est en train de penser à faire ça. Donc, si c'est 2 jours, 3 jours, ben l'autre, il va être là, il va pouvoir être là 2 jours, 3 jours, tu le croiseras probablement jamais.
Tu sais qu'à Ottawa, ils ont la même problématique, hein, puis le gouvernement a décidé que pour l'instant, on faisait pas plus de télétravail, puis qu'on incitait les gens à revenir au bureau, puis la seule raison qu'on a, c'est par solidarité envers les commerçants, par solidarité envers les gens qui ont des business et ainsi de suite, puis qui ont besoin de voir du monde sur l'heure du midi, les souper, puis ainsi de suite. Puis je pense...
Mais pendant ce temps-là, le gouvernement perd de l'argent.
Je suis d'accord avec toi à 200%.
En tant que contribuable, il faut se le mettre en tête. Oui. Est-ce qu'on accepte de perdre de l'argent puis d'en donner à l'entreprise privée ou on relocalise nos fonctionnaires à l'intérieur de nos bâtisses qu'on paye déjà, mais à qui, des fois, on permet le télétravail, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas besoin d'autant de pieds carrés?
Si on fait juste regarder les chiffres sur la colonne de chiffres puis sur la calculatrice, je suis d'accord avec toi à 200%. Mais es-tu d'accord avec moi pour dire que si jamais, pour quelque raison que ce soit, puis ça va être des raisons économiques, le gouvernement décide, là, d'enlever ses fonctionnaires à Saint-Roch, c'est le coup fatal.
Ouais, comme
c'est quoi l'image que le conseiller Lachance utilise?
Capitaine Bretel dit, ce serait tirer un coup de dose dans la chaloupe.
C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement
avec
ça.
Avec tous les efforts qu'on a mis.
Oui. Ça, c'est sur le jeu de clous, là, c'est le gouvernement qui a fait le coup fatal avec, avec le chandelier.
On dit que la pandémie a fait chuter le nombre de travailleurs dans ce secteur. 2011, il y avait 12 700 travailleurs comptabilisés et le recensement de 2021, c'est à peu près la moitié qui reste.
C'est déjà. Tu peux probablement pas freiner ce qui se passe présentement dans Saint-Roch. Tout est une question de message et de statement rendu là. Mais à ce stade-ci, tu peux pas prendre les fonctionnaires qui restent et dire « nous autres, on déserte le secteur ». À moins d'arriver avec autre chose, à moins d'arriver avec une contrepartie, à moins d'arriver avec des solutions pour relancer le secteur de Saint-Roch. Mais on sent pas le gouvernement très impliqué hein, dans ce dossier-là à date en passant. Là.
On retire tous les itinérants de Saint-Roch, là. Ça va-tu mieux, Saint-Roch?
Oui. C'est plate à dire, hein? Mais oui. Il y a un enjeu de sécurité. Il y a des gens. Puis je pense que c'est le propriétaire, un des propriétaires de la microbrasserie, le Noctem. C'est des jeunes entrepreneurs. C'est pas des gens qui sortent souvent, mais lui, il expliquait sa dynamique. Il dit, moi, là, il y a une grande partie de ma business que c'est les gens qui travaillent ici. Mais là, les gens qui travaillent ici, il y en a la moitié qui ne viennent plus.
Exact.
Puis l'autre moitié, un coup que la job est finie, ils ont hâte de sacrer le camp. Parce que le quartier n'est plus sécuritaire. Le secteur n'est plus sécuritaire. Les gens qui vont voir un spectacle le soir, avant, ils arrivaient plus de bonne heure. Ils venaient prendre une bière, ils venaient manger un peu. Là, ils vont à leur spectacle, puis après ça, ils rembarquent dans le char, puis ils s'en vont plus sacrant. Il y a une partie des problèmes qui se règlent si on fait disparaître en l'espace d'un claquement de doigts toute l'itinérance puis toute la problématique de santé mentale dans Saint-Roch. Mais tu peux pas faire ça. Tout ce que tu prends, c'est que tu prends puis tu déplaces. Tu les envoies ailleurs. Tu pitches le problème à quelqu'un d'autre.
Mais est-ce que Saint-Roch est viable à long terme avec ces itinérants qui sont de plus en plus nombreux à Saint-Roch?
Écoute, Comment on fait pour empêcher des gens de se retrouver à la rue? Comment on fait pour prendre les gens qui ont besoin d'aide à la rue puis essayer de les encadrer davantage? T'as ta solution, tu la répètes souvent. Je la trouve pas bête du tout.
Une fois tu te fais prendre, t'es en situation d'itinérance, t'es sur le trottoir, t'as rien à faire là, on te donne un avertissement. Deuxième avertissement. Troisième avertissement, ben je m'excuse, on a un endroit pour toi, tu vas falloir que tu t'ailles te faire soigner parce que t'as des problèmes d'alcoolisme, t'as des problèmes de toxicomanie, t'es un danger pour toi-même, t'es un danger pour les autres. Fait que tu vas venir faire un tour à Robert-Chefort, on va rouvrir ça, puis tous les thérapeutes possibles vont être là pour t'aider à réintégrer notre belle société. Non, mais je veux pas, je veux continuer à vivre dans ces rocs. Non, mais ça marche pas.
On va s'assurer que tu prennes les médicaments que tu as besoin, puis on va faire notre possible pour que tu prennes pas les cochonneries que tu n'as pas besoin. T'sais.
Une désintox.
C'est des gens qui ont besoin d'encadrement puis qui ont besoin d'aide.
Exact.
Puis il y en a de plus en plus, puis ça fait partie de ce qui a, mon Dieu, de ce qui a régressé terriblement dans Saint-Roch depuis 5 ans.
T'sais. Beaucoup aussi de problématiques dans le coin des bars, là. Ça, c'est plus dans la vie nocturne que tu le vois.
Ouais, ouais.
Recrutement, là, les gars, j'ai jamais vu ça. Je sais pas si depuis l'automne, ça a slacké, là, mais cet été, là,
le
printemps
de quoi?
Été, proxénétisme.
Des petites filles?
C'était épouvantable dans les bars, là. Puis pourquoi je suis capable de l'affirmer, c'est que j'ai posé des questions après une situation que j'ai eue devant moi que j'étais pas sûre, puis qu'un de mes amis a comme confirmé par comment il s'est fait approcher, puis après ça, le pimp est arrivé, puis il demandait le cachet d'avance, puis disait, je sais pas, ça s'est calmé. Mais la dernière situation que j'ai vécue, c'est en sortant des bars. Nous, on a pris, mettons, 2-3 verres avec une gang d'amis. On sort, puis la police est partout. Puis c'est bien parce qu'ils faisaient une opération policière. Mais se faire screener comme ça, pas pour l'alcool au volant, pas pour ivresse, mettons, sur la route, ivresse urbaine, là, pas du tout. Savoir si on est amis et ou s'il y a quelqu'un en danger dans les regroupements de jeunes.
Mais tu sais, on est dans un contexte où, avec le rêve de l'argent rapide, on convainc des adolescents d'essayer de tuer du monde puis de les impliquer dans une guerre de motards criminalisés. Dans ce contexte-là, qu'on fasse planer le même rêve d'argent facile à des jeunes filles pour faire de la prostitution, il n'y a pas grand-chose de surprenant là-dedans, malheureusement.
Mais je pensais pas que c'était aussi dans nos faces. Mm-hmm. Parce que j'avais entendu parler il y a peut-être 6-7 ans, puis j'avais fait un mini-reportage là-dessus et autres dans les centres commerciaux. On passera pas à côté, il y avait pendant un bout puis des boutiques aussi qui étaient visées, mais il y avait du recrutement là qui faisait, puis les cadeaux, puis les gars étaient reconnus pour venir avec différentes jeunes filles, puis il y avait eu une couple d'informations qui étaient sorties. Tu sais, on parlait plus autour des centres jeunesse pendant un petit bout, mais après ça, ça a été beaucoup plus que la jeunesse qui est peut-être en situation de détresse psychologique. Ouais. Là, ça a été n'importe
qui. Mais tu t'en rends compte parce que tu es plus observatrice que la moyenne. Ben, il y a peut-être aussi que tu es tout le temps dans les bars chaque soir, mais tu t'en rends compte parce que tu es très alerte.
La belle vie de jeune célibataire.
Exactement. Hein? Exactement. Ma soirée de Saint-Valentin de la semaine passée, ça n'a pas fonctionné, pas réussi à matcher avec ceux qui font des beaux poèmes.
Non, ça n'a pas marché, c'est malheureux.
Mais on les a fait gagner, ils ont gagné de la poutine puis des beaux objets du 7e siècle.
Exact. Hier, Denis, vous avez reçu Judith Desmeules. Oui. J'étais dans mon char, j'étais enragé. Salutations à Judith Desmeules qui fait vraiment une maudite belle job. Puis en plus, quand elle vient ici, on sent à quel point... Bon, les journalistes, des fois, on les trouve un peu raides, là, on les trouve froids, mais elle, on voit à quel point c'est une femme humaine comme pas possible. Puis elle me racontait l'histoire de Dominique Laroche. Puis sa pauvre victime qu'il a connue à l'âge de 13 ans. C'est, cette histoire-là, c'est tout ça, c'est vrai, parce que Dominique Laroche n'a pas été déclaré coupable. Là. C'est 25 ans de prison minimum. Là.
Ben écoute.
50 peut-être, ou je mettrais 75 sur mon île où je serai le principal dictateur. Là. 75 ans. Mais cette histoire, une petite fille de 13 ans, Denis.
Ça n'a pas de bon sens. Une fille qui... pense découvrir l'amour et la sexualité parce qu'un adulte la manipule dans ses perversions, puis ainsi de suite. Puis je veux saluer Judith parce qu'elle fait un job extraordinaire, évidemment, comme journaliste judiciaire dans Le Soleil. Mais quand elle vient s'asseoir avec nous autres, c'est le côté humain qui ressort beaucoup. Puis ça, c'est ce qu'on voit moins dans des textes, tu sais, quand tu lis des comptes rendus de palais de justice et ainsi de suite. Mais quand Judith vient nous raconter ce qui se passe dans la salle de cour, comment les gens réagissent et ainsi de suite, elle le fait avec beaucoup d'empathie, beaucoup d'émotion. Puis je pense que ça touche beaucoup de monde. Ça touche toi, ça me touche moi. À chaque fois qu'elle vient nous raconter ces choses-là, on sent qu'elle prend ça avec cœur et sensibilité. Puis encore une fois, hier, en nous racontant le témoignage de la présumée victime, je veux dire, c'est une histoire qui s'écrit d'elle-même. Puis comment le gars va assurer sa défense, alors que déjà, il y a trois avocats qui ont dit « Hey, regarde, t'enligner comme tu veux t'enligner, arrange-toi donc tes troubles. » Ça va être intéressant. Le contre-interrogatoire, c'est aujourd'hui, puis à un moment donné, il y aura à témoigner. C'est une histoire horrible.
Comment un homme parfaitement construit peut abuser d'une petite fille qui a des problématiques avec sa famille, qu'il reçoit chez elle? La petite fille s'occupe de ses enfants. Ça devient pratiquement sa deuxième famille, presque sa vraie famille. Et lui commence à tisser un lien avec elle qui va au-delà de l'amour père-fille. T'sais. Il y aurait eu une attirance sexuelle à son égard, puis il se masturbait à côté d'elle pendant qu'il écoutait un film. Ça a de l'air qu'il n'y a personne qui a vu ça dans la maison pendant que Dominique Laroche se masturbait et que la petite fille était à côté. Puis par la suite, sa première relation sexuelle aurait été une relation anale. Sa première relation sexuelle à vie, c'est une relation anale avec un homme de 46 ans à l'époque. Je veux dire, ça a juste pas de bon sens. Puis pendant toutes ces années-là, Denis, parce qu'on nous a parlé du fameux donjon sexuel là, qui était chez Dominique Laroche.
La salle de sexe.
On nous parlait aussi d'un garde-robe où il y avait un matelas à terre dans son bureau.
Les outils faits maison.
L'ADN de Dominique Laroche et de la présumée victime qui ont été retrouvés sur les outils jouets faits maison. Pendant toutes ces années-là, il n'y a personne qui s'est jamais rendu compte de rien. J'y vais avec une hypothèse. Il n'y aurait pas dû juste avoir une arrestation dans le dossier.
Écoute, c'est une question qu'on soulève très souvent dans des cas très célèbres. On peut revenir à Nathalie Simard et Guy Cloutier, si tu veux. On se posait les mêmes questions à l'époque. Tu sais, comment une jeune fille peut être agressée sexuellement à autant de reprises dans un entourage où tu as une femme, où tu as une famille et ainsi de suite. Puis souvent, ce qui ressort, c'est que les gens aiment mieux faire de l'aveuglement volontaire que de s'admettre la vérité. Tu sais, quand quelqu'un de ton entourage, puis j'ai parlé hier avec quelqu'un qui a côtoyé un petit peu Laroche, puis lui, il était complètement fessé là, de ce qu'il a entendu dans le témoignage de Judith hier après-midi. Il n'en revenait pas. Là.
Pour lui, il ne s'attendait jamais à ce que ces faits-là soient collés.
C'était impossible. C'était impossible. Puis on le voit beaucoup aussi. La première réaction après des accusations, puis je reviens à Guy Cloutier, il y en a beaucoup qui publiquement ont pris sa défense en disant « Ben non, mais ça se peut pas, c'est mon ami. »
Il y en a qui font de l'aveuglement, mais les bons
René Angelil, entre autres, trouvait que c'était impossible parce que c'était son ami.
Ben, mais les fins manipulateurs, les gars, là, sont réputés pour, dans leur entourage, être capables d'endormir à un point où jamais, jamais tu vas te douter d'eux. C'est l'arrangement autour de la victime et l'arrangement autour des proches, là, c'est deux choses qui gèrent d'une manière impeccable. C'est des gens malheureusement brillants
ça demeure
psychologiquement.
Je comprends ça. Ça demeure des hypothèses, mais pendant toutes ces années-là, dans cette maison-là,
je suis d'accord avec
il n'y avait
toi,
pas juste lui qui vivait là avec la petite.
Puis qu'elle, elle dise rien, ça veut dire c'est quoi le contrôle qu'il exploitait autour d'elle? Tu comprends ce que je veux dire?
Je comprends, mais que lui était seul avec la petite dans cette maison-là qui était entourée de plein de monde, là, puis qu'il y ait une arrestation, moi, ça me surprend.
Je suis dans ton camp. Je suis surprise.
Je veux dire, tu sais, il y a de l'aveuglement volontaire, là, puis il y a de l'aveuglement carrément. Là. Pis, ou bien le monde, t'es crissement niaiseux.
Puis interprète ça comme tu veux, mais les membres de la famille de Laroche ne sont pas au palais de justice.
Exact. Exact.
Ils sont pas là.
Puis je pense pas qu'ils renouent vraiment avec leur frère. Puis pour avoir côtoyé les gens de la famille Laroche, pas de près, mais professionnellement, ces deux frères, c'est des diamants. Là. Lui, c'est visiblement le mouton noir de la famille.
Ouais. C'est une histoire horrible. Ça va se poursuivre au palais de justice. Puis, by the way, là, on a échangé avec Judith. Là, s'il y a des choses qui ressortent encore cette semaine, Judith va revenir faire un tour dans l'après-midi. Là.
Sa défense, ça va être quoi? Donc, on y va avec des hypothèses.
Il n'y a pas grand-chose. T'sais, tu peux pas te défendre en disant que c'était une relation consentante. T'étais en situation d'agression et d'autorité avec une mineure. Donc, tu peux pas utiliser cette défense-là. Tu vas nulle part avec ça. Peut-être que la seule porte de sortie qu'il pourrait essayer, c'est de dire avant 18 ans, il ne s'est rien passé, puis après ça, c'est une relation consentante.
C'est ce qu'on pense.
C'est peut-être la seule porte de sortie là, qu'on peut voir à prime abord.
Je peux-tu saluer quelqu'un avec tout ton air?
Ben, qu'un.
Le chum de la victime. Le chum de la victime a fermé sa gueule parce que sa blonde, il a dit « Dominique Laroche m'a fait telle affaire à partir de 13 ans ». Il a fermé sa gueule puis il a respecté le secret jusqu'à temps que Dominique Laroche rencontre la fille du chum de la victime qui avait pas 18 ans à l'époque.
Exact.
Et là, il lui a dit devant lui, dommage qu'elle ait pas 18 ans.
En flattant le dos.
Et c'est là que lui, son déclic dans sa tête, ça a été un peu, là, c'est parce que lui, il côtoie d'autres enfants. Mm-hmm. Moi, je peux pas dormir à soir sans faire ce téléphone-là.
Ouais.
Il a fait la bonne chose. Il a appelé la DPJ. Il a dit, voici Dominique Laroche, il aurait fait telle affaire. La DPJ a enquêté. La victime a décidé d'embarquer dans le dossier. Et c'est là que lui, on a procédé à son arrestation.
Puis bravo, parce qu'elle l'a fait hier avec énormément d'aplomb. Et c'est une situation que c'est pas nécessairement elle qui a initié, je veux dire, le processus judiciaire. Il y a beaucoup de monde qui ont eu des décisions importantes à prendre dans ce dossier-là, des décisions morales, des décisions éthiques. Puis j'ai l'impression qu'à date, tout le monde a pris la bonne décision pour que tout ça aille de l'avant puis qu'on se retrouve avec une sentence sous peu. T'sais.
Mais c'est dur, elle devait se sentir coupable par les sentiments
Absolument.
Qui étaient faux, mais qui étaient quand même apparents.
Elle est en amour avec.
Elle est en amour. Puis tu sais, elle a 30 ans là, en ce moment quand elle témoigne. Là. C'est jeune. Là.
L'enfer.
Quelle colonne vertébrale. Là. Ça... J'espère qu'elle est bien entourée, puis elle le sera pour la suite. Mais...
Semble que ce soit le cas. C'est ce que Judith nous disait. Ouais. Ça a l'air qu'elle est bien entourée, elle est bien protégée, elle est bien encadrée. Tant mieux. Tant mieux.
Si puis le temps que ça a pris pour le dénoncer, bon, on ne pourra jamais juger ça. Il y a des victimes qui vont dénoncer sur le fait ou demain matin. Je vous salue. Puis il y a des victimes qui vont dénoncer 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, puis 20 ans plus tard. Puis je vous salue aussi. Le temps, là, c'est vous autres qui allez décider quand est-ce que vous allez sortir.
Exact.
Mais si vous voyez quelque chose, si vous entendez quelque chose, si vous voyez qu'il y a des enfants qui pourraient peut-être être susceptibles d'avoir le même traitement que votre ami a eu ou que votre conjointe ou que votre conjoint a eu, le réflexe du gars là, aux États-Unis, quand tu te promènes dans le métro, c'est à New York surtout, c'était écrit If you see something, say something.
Ouais.
Ben, lui a fait la bonne chose. C'est ce qui fait qu'on a peut-être, parce qu'il n'a pas été déclaré coupable, on a peut-être retiré un prédateur sexuel de la société.
Exact. Exact.
Merci, Denis.
Hey, merci, vous
autres. Midi 33, on revient. Marceau.